Dans les années 40, aux United States of USA, Bradley Cooper est possiblement un menteur. Il se ferait passer pour le professeur Xavier, capable de lire dans les pensées. Qu'à cela ne tienne, pour lui tirer les vers du nez, des hommes baraqués vont alors faire appel au cousin d'El Calculator, El Detector, qui n'est autre qu'un polygraphe. Oui, c'est le nom scientifique pour détecteur de mensonges. À partir de là, les souvenirs surgissent en flashback. Avant d'en arriver là, Bradley a fait l'école de la rue et aussi celle du cirque. Il y a rencontré une bande de freaks à la American Horror Story. Une femme poilue, commerciale chez Tesla. Major Mosquito, un petit rappeur qui fait de la drill. Bruno, l'homme le plus fort du monde. Mais vous connaissez la chanson. Ne parlons pas de Bruno, non, non. Donc ne parlons pas de lui. Bref, parmi tous ces monstres de foire, il y a surtout rencontré Dumbledore version coupe de feu. Ce sera auprès de ce dernier qu'il apprendra ses entourloupes de faux médium mentaliste. S'ouvrit alors à lui la voie du succès vers les plus beaux théâtres de la ville, jusqu'à l'arrivée de Cate Blanchett, une autre mentaliste élevée aux magouilles foraines pour faire du blé. Naît alors une sombre idée. À eux deux, monter la Team Rocket pour jouer de mauvais tours. Ça marchera un temps, mais de mauvais tours en mauvais tours, eh bien on flirte avec le diable et on se retrouve entouré par quatre gorilles attachés au cousin d'El Calculator. Il en va ainsi pour tous ceux qui empruntent l'allée des embrouilles. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier film de Guillermo del Toro dans l'épisode 74. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai, douille ou pas douille, nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Nightmare Alley.
DJ, keep that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Nightmare Alley, le dernier film de Guillaume Leboeuf, version française, Guillermo del Toro.
Le Toro, ça n'existe pas.
C'était la petite case dédiée. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de monstres de foire des années 40. Autour de la table, Clément, qui rappelez-vous,
c'est moi, Mickey House.
Mickey House. Voilà, un monstre très très monstrueux hein, aujourd'hui dans l'industrie du cinéma. Johanna, la femme aux quatre montons.
Hey, t'as pas payé pour voir mon troisième sein. Hein.
Personne ne veut après, je pense. Là, après le quatrième menton,
les mentons, oui, mais bon.
Et de nouveau venus dans notre team de freaks, ils sont de retour après avoir affronté un monstrueux Covid.
Oui, oui, oui.
Nos siamois.
Oui, je m'appelle U, elle s'appelle U. Nous sommes les UU.
On est collés.
On est collés.
Ah, ok, d'accord, ok, d'accord, une blague de papeterie. Yeah.
Et de handicap.
Et un autre monstre qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, mais c'est parce qu'il était en tournée internationale dans tous les cirques de Navarre et de France. Erwan,
un peu de Belgique aussi.
Erwan is back.
Oui, bonjour.
Ouais, tu fais quoi toi dans
la suite? Je suis Elephant Man, une énorme trompe. N'hésitez pas à venir la voir.
Non mais on la voit, c'est ton nez.
Ah, tu nous
interdit aux enfants.
J'aurais adoré que tu dises je suis comptable.
Oh merde, c'était mieux.
Ah, je suis le comptable de la team.
Non.
Mais qui a une énorme trompe. Bon, on va se lancer tout de suite dans le match retour de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Hein. Je pense que je l'ai déjà assez répété depuis le début. Mais avant toute chose, on va vous dire où est-ce qu'on se situe en termes de spoil, hein, pour peut-être les oreilles un peu craintives. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout vous spoiler, mais on va vous dire précisément à quel tour on est grâce à notre ordinateur. Salut, El Calculator.
Salut, les oreilles craintives.
Alors,
salut.
Où est-ce qu'on est pour un Nightmare Alley?
Nightmare Alley, nous allons le spoiler à hauteur de... 55%.
Donc voilà. Non mais en tout cas maintenant vous savez, si vous avez vu le film, vous pouvez être serein en façon de toute manière. Voilà. Si vous l'avez pas vu, on va pas tout vous dire. Let's go.
Allez.
On va y aller, mais avant toute chose, hein, il va falloir qu'on résume l'histoire.
Oh.
Et oui.
Et grâce à la
roue de la fortune.
Ouais, ça fait longtemps que c'est pas venu. Ça fait longtemps
qu'il était
là
à l'époque de Philippe Risoli et tout quoi. Grâce à la roue de la chance.
La roue de la chance, c'est parti.
Romain. Putain. C'est pas trop dur à résumer.
Non, surtout que je l'ai vu aujourd'hui même où on enregistre. Donc ouais, écoute, j'aurais aimé que ce soit Erwan, ça fait longtemps. Mais non.
Erwan.
La roue de la chance a voulu que ce soit moi, le pur destin du hasard. Alors, Nightmare Alley. Tout commence un beau soir d'hiver, pas du tout. Nightmare Alley commence sur le film s'ouvre sur Bradley Cooper qui dit un peu au revoir à son passé en foutant littéralement le feu à son passé, si on peut dire ça comme ça, et qui finit par prendre un bus qui le mène un peu vers nulle part. Arrivé au terminus de ce bus, il se retrouve dans une ville, un vieux patelin totalement perdu sous la pluie, dans la boue. Et il déambule dans un cirque où il y a tout plein de tas de monstres de foire notamment et d'autres attractions. Mais c'est là où ce qui l'interpelle le plus son regard, ce sont justement ces personnes-là, ces forains qui vivent en famille avec tous ces monstres de foire. Donc ouais, il y a la femme électrique, il y a l'homme le plus fort du monde. Enfin, ouais, vous connaissez un peu les images voilà, qui sont rattachées à cet univers-là. Et il va finir par se faire embaucher parce que c'est quand même un bon gars, le Bradley Cooper. Et il va tomber amoureux de la femme électrique qui n'est autre que Rooney Mara. Entre temps aussi, il aura fait connaissance de Toni Collette et son mari Pete, qui eux sont les télépathes un peu de la bande. Mais attention, aucune personne n'a de pouvoir, hein. Tout n'est que fourberie, évidemment.
Et ils tiennent un bain douche aussi, t'as oublié de dire.
Attrape-Lego, oui, c'est vrai qu'ils tiennent un bain douche, ouais. C'est, d'ailleurs, ils se rencontrent dans un bain, il vient lui payer 10 cents le bain. C'est un peu comme ça qu'ils se rencontrent Toni Collette et lui. Et il va surtout apprendre beaucoup de son mari Pete, qui est un ancien mentaliste, télépathe, qui a développé une technique qui va...
Télépite.
Un télépite, oh. Mais du coup, il va lui transmettre
je
un peu le...
Que ça vous plaît.
C'est pour te faire plaisir. Hein,
quelqu'un t'a méprisé autour de ça. J'ai pas y roller.
Et voilà, et puis du coup, il va prendre un peu la relève. Et du coup, il va pouvoir partir avec Rooney Mara, hein, donc la femme électrique, suivre son propre chemin de mentaliste, télépathe, arnaqueur, hein, parce que ce n'est rien d'autre que de l'arnaque. Il va accéder évidemment au plus grand théâtre de la ville, donc fini les vieux patelins sous la pluie, dans la boue et tout, c'est fini ces conditions-là. Maintenant, c'est chambre de luxe, hôtel privé, caviar et compagnie. Bref, la belle vie jusqu'à l'arrivée de Kate Blanchett, qui n'est autre qu'une psychologue, qui va évidemment vite comprendre que tout ça n'est qu'arnaque et qui va lui proposer un deal pour se faire un peu plus de blé, mais tout ça n'est pas sans risque. Voilà.
Suspense.
Le reste des 45% dans le film.
T'es trop meilleur.
Alors on va pas trop spoiler. Le calculateur nous a donné le taux de spoil. J'ai
55.
Que... 55 apparemment. Ouais. Donc bon.
Très bien résumé.
Il part plus comme ça, le calculateur. Ah merde.
Ben, voilà.
J'aurais pas dû.
Il est automatisé maintenant.
Il a fui
comme un Pokémon shiny. Le calculateur, au revoir. Oui, ben, au revoir. C'était pas toi que je voulais parler. On va se lancer dans.
Je te réponds pas.
dans la rubrique du douille ou pas douille pour comparer la BA au film et voir si on s'est pas fait entièrement douiller par ce film. Let's go.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille. C'était pas une douille.
Alors déjà, est-ce que mon histoire, elle était... Enfin, est-ce que notre histoire qu'on s'était imaginée avec sa BA quand on s'était fait des films autour de la bande-annonce, est-ce qu'elle était plus ou moins proche de ce qu'on avait imaginé ?
Il n'y avait pas de FBI.
Il n'y avait pas de FBI.
Sinon, c'était à peu près
ouais,
ça.
Il y a la police quand même.
Il y a la police, évidemment.
Ouais, mais, on voit une voiture à un moment.
On était sur une histoire de flashback dans le flashback. Et en fait, moi, c'est un film qui est plutôt linéaire.
Non, c'est linéaire. Ouais.
Très linéaire. Par contre, est-ce que sa BA nous a douillé ? Pour faire un peu le résumé de nos avis, si je me souviens bien, on était carrément bottés parce que bah, évidemment le nom Guillermo del Toro prenait beaucoup de place aussi sur l'affiche, mais on était plutôt bottés par l'ambiance du film Freaks and Show. Qu'est-ce que ça donne, le douille ou pas douille, la comparaison BA film, Kevin? Douille ou pas douille?
Pour moi c'est une petite douille, parce que moi j'étais pas là pour l'épisode BA, mais j'avais l'impression que ce serait plus Freak Show. Je crois que le Freak Show aurait plus d'importance, alors que finalement c'est plus l'endroit un peu séminal quoi, qui va lancer l'intrigue, mais c'est pas le cœur de l'intrigue. Et j'ai un petit SDA aussi.
Petit syndrome de l'attente.
Un petit.
Tu as été touché par le SDA en plus de Covid. Eh ben dis donc.
Sale
semaine.
C'est ce qui m'a fait le plus mal.
Erwan, douille ou pas douille?
Bonne question. Je crois que je me situe entre 45 et 55% sur l'échelle de la douille. Je sais pas où. Je savais pas trop à quoi m'attendre et je sais pas trop où je suis après ce film. Ah si, c'est un peu une douille parce que je m'attendais quand même à suivre un héros alors que finalement.
C'est
un anti-héros. Ouais. Donc je dirais mini douille semi-négative.
Oh, elle revient de loin. C'est
une douille déformante.
Une MDSN, une douille semi-négative.
C'est jamais été classifiée jusque-là, la MDSN. D'accord, j'en prends note.
Johanna, douille ou pas douille pour toi?
Pas douille, j'étais mitigé et je reste mitigé.
Ah, donc pas douille, on a quand même un pas douille. Clément.
Je dirais pas douille parce que c'est exactement l'ambiance à laquelle je m'attendais, brumeuse, obscure, etc. Mais j'ai souffert d'un nouveau syndrome dont je parlerai dans mon avis.
Oh.
Le SDB ?
Non, c'est un SDA mais d'un genre nouveau.
Oh, oh, incroyable.
Je vous tease.
Nouvelle découverte de SDA.
C'est trop excitant.
Et Clémence ?
Pas douille non plus, je suis un peu comme Johanna, c'est-à-dire que, et comme Clémence, c'est-à-dire que je voyais quand même bien l'ambiance avec la BA et j'étais un peu mitigée sur la BA, j'étais pas si hypée que ça, même si c'était Guillermo del Toro. Ceci dit, je suis pas déçue par sa réalisation, donc voilà, pour moi, il n'y a pas de douille en fait par rapport à mes attentes.
D'accord.
Et toi, Romain ?
Ah, alors, ah oui. Moi.
Quelle surprise.
Moi, mon avis sur la BA, c'était que c'était une BA qui formellement ne me plaisait pas trop parce que je trouvais qu'elle laissait pas trop place au mystère. On avait imaginé, nous, des temporalités différentes et tout, en fait, pas du tout. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais préféré. Hein. Mais en soi, le film, c'est vrai que comme il se déroule linéairement, je rejoins un peu Kevin sur les 50% du film que j'ai beaucoup apprécié. Et tout d'un coup, ça retombe. Donc, je ne sais pas si je suis dans le pas douille ou dans la douille positive. Je suis un peu mélangé, quoi. C'est un peu une douille positive de première partie de film, dans le sens où bah, c'était mieux que la BA. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas dans la BA et du coup on s'était un peu trompé, donc c'est bien de se tromper et d'être satisfait. Mais de l'autre côté, la deuxième partie du film, c'était un peu l'ennui à certains moments. Il y avait des petites fulgurances évidemment de Guillermo del Toresque, quoi, si tu préfères. Mais non, voilà, après bon, on va tout de suite rentrer dans les avis, mais j'ai trouvé le film très beau, hein, comme d'habitude. Son directeur photo fait le taf.
C'est le même chef-op que La Forme de l'eau, Les Chines du Diable et tout. Apparemment.
C'est le même chef-op que La Forme de l'eau.
Oui.
Ok. Ah
c'est
oui.
C'est son
bah
chef-op
oui.
Quasi historique.
Mais oui, ça se ressent vachement dans la lumière, quoi. T'as ce bleu qui lui est, je trouve, caractéristique à Guillermo del Toro. C'est une espèce de bleu d'aquarium là, mais qui marche très bien dans les ambiances bah,
chez
du
la
coup,
psy,
nuit, ouais. Un peu horreur et tout, chez la psy notamment.
Du 132 chez Lee Filter.
Oh, oh, ça lâche les termes. Les termes techniques sont lâchés.
C'était donc ça.
Non, puis voilà, après, je vais pas rentrer dans les. Je pense que vous allez faire toute la psychologie un peu des personnages. En plus, c'est un film adapté, donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup à comparer peut-être avec le roman et le film. Mais sinon, en soi, la musique a été vraiment bien. Je trouve qu'elle collait plutôt bien à l'ambiance. Les acteurs, ils font le taf. Ils sont pas transcendants, mais ils font
on
le taf pour ce qu'on leur demande. Voilà, et puis les effets visuels sont là aussi. Non, mais en vrai, voilà, je veux dire, j'ai passé un bon moment de cinéma, je m'en suis pris plein les yeux. Après, voilà, petite déception sur le petit ventre mou et l'ennui qui s'ensuit, quoi. Est-ce que vous voulez plus développer peut-être pour pas que les gens disent ? Vas-y.
En fait, c'est surtout que j'avais déjà un peu senti par la BA que ça pouvait être bancal, et j'ai trouvé le film bancal dans son histoire. Au niveau de la réelle, comme tu dis, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quand même du Guillermo del Toro, c'est du grand cinéma. Il se débrouille trop bien, tout est beau, tout est bien orchestré et tout. Les acteurs sont bien dirigés. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'histoire et de l'écriture. Alors du coup, ça pose la question de est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il adapte une histoire qui n'est pas de lui par rapport à La Forme de l'eau ou d'autres de ses films.
Je me suis posé la question.
Voilà. Tu vois, tout de suite, je pense que c'est plus contraignant. Et du coup, la structure même du récit qui, moi, me déçoit un peu, c'est pas forcément dû que à lui. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. En fait, toute la première partie, quand il est dans la foire, Stanton, le héros, ben, c'est hyper mystérieux, hyper intriguant. Même lui, son personnage est ultra intriguant parce qu'on commence tout de suite en sachant qu'il a un passé un peu trouble et on a envie d'avoir des réponses. Et puis tous les gens qu'il rencontre, c'est pareil, par leur côté frics, sont hyper, et leur mode de vie sont
puis
très
eux, ils vont pas chercher dans le passé aussi. Donc il y a aussi ce côté, il y a un peu de la bienveillance, mais un peu bizarre et étrange.
Oui. En fait, on n'arrive pas à savoir s'il est bon ou pas, lui, parce qu'il vient pour trouver un job et il le trouve plus ou moins facilement.
J'aimerais bien, j'avoue, le mec, il débarque. Ouais. 5 minutes après, il a un job. Quoi.
C'est macroniste, hein.
Hey, tu sais porter des planches.
Il a traversé la rue, tout simplement.
La rue,
ouais. Il a écouté le président.
La vérité, c'est
il
vrai,
a écouté
il a
Macron.
La
il a écouté Macron, ouais.
Simplement.
Ouais. Mais tu vois, en même temps, on a déjà l'impression au départ que lui, il fait ça de façon intéressée et qu'il va les douiller derrière, quoi. Et en même temps, ce qui est trop étrange, c'est qu'on le voit avoir des comportements plutôt bons et honnêtes vis-à-vis, humainement, vis-à-vis de d'autres personnes qui sont plus opprimées. Et donc, il est très intéressant, le personnage de la première partie, et j'avais envie de voir où ça allait aller. Et justement, dès lors qu'on sait qu'il va prendre un peu des tours pour être... lire dans les esprits des gens, enfin faire croire qu'il lit dans les esprits des gens, bah on se dit bah jusqu'où il va aller, ça va être super intéressant en lien avec son passé et tout. Et après, bah effectivement, énorme déception dans l'histoire dès le moment où il part avec Rooney Mara et où il réussit. Et là, la deuxième partie, c'est vrai que je trouve qu'il y a des longueurs et je trouve que les personnages sont moins intéressants. Lui-même, le héros, je trouve qu'il se dé... il se décomplexifie un peu, il devient très linéaire, très en fait le gars va trop loin quoi. Ouais. Et puis voilà, le karma va le rattraper et on le sait et c'est comme ça. Et on se pose plus trop de questions et tout est un peu désamorcé, les questions par rapport à son passé, par rapport à son père et tout, voilà. Et puis j'ai pas très bien compris le personnage de Cate Blanchett, la psychologue en fait, je n'ai pas vraiment réussi à comprendre ses enjeux et ce qu'elle apportait. Si ce n'est des scènes typiques de films noirs, en fait, la femme fatale.
Par contre, très hommage film noir et ça, c'est, je trouve ça très beau.
Ouais. Erwan. Ça m'a fait beaucoup penser à, genre, juste une aparté, à, tu sais, tous les Sin City.
Ouais, c'est
ça. Tu vois, ces films où, en fait, bah, t'as des scènes de femmes qui sont juste là et qui sont glaciales. Et...
C'est
bon,
ça.
Après, Cate Blanchett fait du Galadriel, c'est ce que je disais à Kevin juste avant. Mais...
Cate Blanchett fait du Galadriel.
Ah, mais c'est Galadriel, quoi, c'est exactement la même. Enfin, bon, bref. Mais j'ai pas trop aimé Cate Blanchett dans ce film. Après, plus ça va,
bas,
et plus elle
je vois un peu ce que tu veux dire, oui.
La femme froide.
Bah, c'est parce qu'elle est iconisée.
Avec les yeux.
Ouais, mais il y a femme fatale, et femme fatale, elle a pas. Je trouve qu'elle manque de charisme. Mais
Non.
Alors, moi, je trouve qu'elle joue pas très bien dans ce film, mais charisme, je suis pas d'accord.
Charisme 100%.
Ouais, c'est clair.
Non, elle fait pas très bien charisme.
On avait mal entendu. Okay, oui.
Par contre, j'ai quand même préféré le personnage de Rooney Mara pour le coup, et même Rooney Mara tel qu'elle l'a interprété, j'ai trouvé plus intéressante. Et on nous donne pas grand chose sur son personnage, mais voilà, j'avais plus envie de m'accrocher
sympa,
à elle.
Elle retransmet bien ce côté un peu effrayé, mais en même temps, femme qui a des convictions.
Oui,
et
très pure,
qui...
mais caractérielle. Ouais. Quoi.
Non, je voulais faire une transition sur la transition, puisqu'en fait, moi, ce qui m'a choqué finalement, c'est plus la transition. Quoi. C'est qu'en fait, on comprend bien qu'il y a deux parties dans ce film. Et c'est en fait la première te crée un SDA, c'est peut-être ça d'ailleurs, non
c'est
le SDA de la voilà, SDA
ça,
de...
c'est que j'ai souffert d'un SDA
pendant le film. Et j'ai vécu exactement la même
il
chose.
Il a débunké ton SDA, c'est incroyable.
Ça a eu un SDA.
Mais tu es psychologue
attends,
SDA live interne.
Est-ce que tu
SDA
enregistres
interne.
Nos sessions
Je suis mentaliste.
C'est un SDA in situ.
Elaborate, please. Elaborate.
In utero. Non, mais je te laisserai parler un peu plus du SDA.
D'accord, donc là je parle pas.
Non, vas-y, bah, si tu veux.
Je plaisante.
Non, c'est en gros j'ai vécu aussi ce SDA et en fait, il y a une espèce de cassure et tout le reste. En fait, c'est les personnages sont très intéressants au début du film. Après, tu les revois plus. Et le reste des personnages est beaucoup moins intéressant.
Ça devient très froid, en fait, même dans la
très
lumière.
Très froid. Ouais. Et puis, en fait, il y a des changements brutaux d'intrigue et puis de personnalité, de personnages aussi.
Oui.
Je vais pas les préciser pour rester dans les
45%. Voilà, on connaît bien la fame. Tu pars, t'es un bon mec au départ et tu as la fame et tu deviens une merde. Quoi.
C'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup pensé aussi au prestige pendant que je l'ai regardé forcément parce que le milieu le veut un peu, le côté un peu foire.
Tesla.
Électricité.
Oui, les
voitures. Mais du coup,
pilote.
En fait, tout ce qui est génial dans le prestige, c'est-à-dire l'évolution en fait des personnages et du coup des personnalités, bah en fait, tu l'as pas trop dans ce film parce que c'est t'as la partie 1, la partie 2.
Je trouve le film un peu chair de poulesque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que je t'envoie sur ton avis.
Attention
Clément, après.
Si tu dis du mal de chair de poule.
Non, j'adore chair de poule. Mais vous voyez la série de chair de poule, ou la série surtout chair de poule. Je trouve que ce film m'a fait penser un peu à un grand épisode de chair de poule où ça commence bien, t'as une bonne histoire et puis la fin, petit rebondissement, on tente un truc et tout, mais tu le vois venir de loin et donc du coup t'as pas la surprise.
Je vois exactement ce que tu veux dire par là, c'est que j'y ai vu un côté un peu nouvelle. Même comme pourrait faire Stephen King, on se disait ça avec Kevin, mais pas dans ses meilleurs écrits, c'est-à-dire le truc qui finit un peu en eau de boudin pour l'effet, tu vois. Où tu dis so what, qu'est-ce que ça m'a apporté.
Imagine en plus si t'as SDA in life pendant le film, quoi.
Oui, ah, c'est ça, c'est que en termes de structure, t'as vraiment trois parties, mais la troisième est très rapide. Et c'est un rise and fall. Donc après, la structure classique, moi, ça me dérange pas dans le sens où il adapte un film des années 40, 50, un livre même des années 40-50. Donc il aurait pu peut-être plus le réactualiser, notamment au niveau des persos féminins. Je trouve que les persos féminins ont quand même pas grand chose à défendre à part la femme douce et la femme fatale et manipulatrice. Mais en fait,
et la femme mentor.
La femme mentor. Mais ce qui est décevant, c'est qu'effectivement, dans cette première partie, moi j'ai pas arrêté de me faire des films. Je me suis dit, attends, ça va aller où ça? Qu'est-ce qu'il va leur faire à cette bande de fêtes foraines, au mec de la foire et tout? Comment il va. Et en fait, on s'en fout un peu. Et la deuxième partie, c'est à New York, il a réussi. Et en fait, le problème, c'est que c'est un rise and fall, mais et le rise et le fall sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'il galère pas vraiment pour franchir chaque étape et monter dans la société. On le voit pas vraiment, sa richesse, sa popularité, on la sent pas vraiment. Est-ce que c'est dû au tournage Covid? Je sais pas. Enfin, je sais pas trop. Et le Fall est très rapide aussi. Il dégringole très vite et il tombe très bas. Et du coup, à la fin, tu t'en fous un peu. Même si je trouve que le dernier plan est extrêmement réussi et moi m'a un peu re-attrapé. Mais voilà, c'est, en termes de structure, je trouve que c'est à la fois un peu attendu et un peu décevant, alors que effectivement avec ce point de départ, tu peux faire plein de choses. Moi, je me suis même dit à un moment donné, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs est-ce qu'il est vraiment doué de dons de médiumnité? Est-ce qu'il y a un côté fantastique comme ça le personnage de Cate Blanchett, qui au début est très ambigu, tu dis qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche? Bah, en fait, bon, on va pas spoiler, mais c'est décevant, je trouve, ce qu'elle cherche, surtout qu'on comprend pas vraiment. Et voilà, il y a des tournants dans l'histoire qui sont pas ceux auxquels je m'attendais, mais qui sont pas non plus surprenants. Et du coup, c'est vrai que ça a fait une impression un peu mitigée au final, même si techniquement, je trouve que c'est très réussi.
Qu'est-ce que tu as à dire à ça, toi, Kevin?
Moi, je suis assez d'accord avec tout ça, et je trouve que c'est un peu, de souvenir de tout ce qu'il a fait, c'est la première fois que je trouve qu'un film de Del Toro narrativement est bancal. Parce que d'habitude, c'est vraiment un cinéaste de la narration claire. Quoi.
Ouais.
C'est que la narration est très claire, ça coule tout seul, tu comprends tous les enjeux très simplement et puis tu te laisses porter par le récit. Et là, effectivement, tu sens que c'est pas hyper maîtrisé, mais en fait, moi, ce qui m'a plus intéressé dans le film, c'est plus le film dans la filmographie de Del Toro que le film en lui-même.
Ah,
c'est-à-dire que...
Oui.
On est quand même sur un réalisateur qui est oscarisé depuis pas longtemps, qui a été oscarisé pour un film de monstre, ce sont des films qui sont pas oscarisés normalement, et on nous raconte l'histoire d'un homme qui fait semblant de faire apparaître des monstres à des gens, c'est un peu ça l'histoire de l'arnaque, quoi, et qui en gros est un peu puni pour ça parce qu'il fait le spook show, donc il fait ce que le public attend de lui finalement.
Un perso qui crée l'illusion comme on crée l'illusion
voilà.
Au cinéma.
Et j'ai l'impression que ce film et que le fait de vouloir adapter cette histoire, enfin je sais pas, je trouve ça assez signifiant dans sa filmographie, quoi, d'être là, d'avoir eu son Oscar, d'avoir fait que des films de monstres où il montre tout le temps les créatures, où il est connu pour ça.
Et là, les monstres, c'est les gens.
Voilà, mais les monstres, c'est les gens, mais il raconte l'histoire d'un type qui fait croire qu'il va te montrer des monstres, qui fait même un monstre en trucage à un moment, et qui, à cause de ça, entraîne sa propre chute. Et je sais pas, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de le voir faire ça. J'ai l'impression qu'il en doute. Et je me dis peut-être que parfois les maladresses de narration, elles viennent aussi de là. Peut-être que. En adaptant ce truc-là, il voulait parler de quelque chose de profond, enfin de vraiment intime pour lui. Il était au-delà de l'histoire. Et que le fait d'être dans cette introspection psychologique, en plus la psychologie c'est hyper, hyper présent dans le film, et ça l'a rendu un petit peu fébrile, quoi. Mais c'est pour ça que je suis un peu. Je suis très intéressé par le film, mais en même temps je suis assez déçu en termes juste de plaisir cinématographique pur, même si le film reste très beau visuellement et qu'il y a plein de thématiques que je trouve intéressantes, mais un peu perdu, comme par exemple le bébé Enoch, je sais pas trop ce qu'il fout là, enfin il y a plein de trucs.
Il y a de la symbolique.
Il y a plein de symbolique qui est un peu
perdu.
Attends,
après il va grandir et faire du rap, attention.
Ça va devenir un roi.
Ouais.
On a des gueules.
Au Québec.
La bande de putes.
Voilà. C'est espèce de gros fourre-tout.
Je suis d'accord avec toi, mais ce
qui
m'a gêné, c'est le lissage hollywoodien du truc, tu vois. C'est que ça aurait pu, du coup, être un film hyper personnel, sauf que je ne l'ai pas senti. J'ai trouvé que c'était hollywoodien.
Disney, Mickey House.
Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la Fox, ouais, effectivement. C'est que, c'est un peu plus gore que La Forme de l'eau, mais en vrai, par rapport à du Del Toro, c'est quand même très aseptisé, alors que, voilà, on est dans une foire et tout, ça aurait pu être beaucoup plus crasseux, il aurait pu
Après,
avoir...
Après, il a jamais été dans le gore, enfin, il a fait des scènes plus gore, mais il a pas jamais...
C'est dérangeant, en général, tu vois, le labyrinthe de Pan, c'est quand même...
Il a jamais été... Ouais, bien sûr, mais il a jamais été dans le gore frontal. Mais, par exemple, tu vois, moi, je trouve que les comment ils appellent, les geeks, là...
Ouais.
Les crétins, le crétin
en français, même si c'est pas spécialement gore visuellement, je sais pas, je trouve que l'idée est violente, quoi.
Ouais,
et que ça marche quand même.
Ouais.
Et c'est intéressant ton analyse, j'aime beaucoup, pour le coup, parce que c'est vrai que vu sous cet angle-là, le film devient intéressant.
Mm. Mais en fait, moi je pense que c'est un film qui va quand même être intéressant à analyser, et plus j'y repense après coup, en fait j'étais un peu déçue en sortant de la salle de ciné, mais en entendant même d'autres critiques en podcast ou en lisant, ou même en entendant l'avis de Kevin, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes derrière, et j'ai pas trop l'impression qu'il ait lissé le film, j'ai plus au contraire l'impression que oui, c'est peut-être très personnel ce choix d'adapter cette histoire-là, et qu'en fait, il y a plein de choses qui ne nous passent pas bien, qu'il aurait voulu faire passer mais qui ne passe pas bien.
Je pense
bien,
pas qu'il ait
lissé
le film, je pense que lui il voulait faire un film personnel, ouais. Mais je sens un peu la Fox.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au contraire c'est un film assez exigeant en fait, qui mérite d'être analysé et qui n'est pas forcément à notre portée, c'est ça qui est sa faiblesse. Même apparemment il y a un article qui a été écrit par un mec sur toutes les références au tarot qu'il peut y avoir, oui. Dans le film,
ah, oui.
Même au-delà de, au moment où on lui tire les cartes, mmh. Et qu'on voit bien qu'il y a une position du pendu qui est reproduite en plan à la fin, il y a plein de références apparemment tout au long du film, mais ça c'est des trucs qu'on les connaît pas forcément,
mais
donc je pense qu'il y a des trucs
c'est,
lui
c'est
il sait photo. Mais pas nous,
c'est un photo d'ailleurs parce que moi parce que comme je suis fan, j'ai le tarot de Del Toro qu'il a édité
le Del Toro
qui juste parce que sa mère était taromancienne à Del Toro, mais
Ah mais c'est pour ça.
Ça c'est intéressant,
oui.
Je trouve.
Okay.
Hein?
Ça c'est intéressant, je trouve, par rapport à ce que
ouais,
dit
ouais,
le film qui a l'air très cartésien quand même.
Faut pas oublier quand même que le but premier d'un film c'est quand même de son public, ce qu'on va. C'est bien de mettre de la symbolique, mais il faut quand même que ça crève un minimum les yeux pour que on le comprenne. Parce que si c'est, en fait, ça m'énerve un peu de regarder un film qui ne sera apprécié que des personnes qui vont passer 3 heures à le débunker, tu vois.
J'avoue que la double lecture, moi je l'ai pas senti.
Et je suis assez d'accord, et même par rapport au genre du film noir, je pense qu'en vrai. Il y a plus les cinéphiles qui prennent un plaisir à voir comment il s'est emparé du film noir.
C'est très graphique aussi.
Que le Kidam. Enfin, voilà.
Et aussi le fait que ça soit la thématique du forain, que je trouve intéressante. Parce que le cinéma, c'est un art forain, à l'origine. Et c'est ce que tu as d'ailleurs dans Dracula de Coppola, où justement ils vont voir le cinématographe dans une fête foraine. Et pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais avant, et pour moi, ça corrobore un peu l'idée que j'ai, c'est que le fait qu'il fasse un film en plus qui parle des artifices que tu apprends à la fête foraine. Cette espèce de magie, cette espèce de trucage, moi je trouve que c'est signifiant quand il fait justement un croquis à un moment d'une fausse chaise électrique, où il dit mais de toute façon la roue qui est derrière on s'en fout, il n'y a pas vraiment de vrai courant qui passe. Pour moi vraiment il fait une auto-analyse du cinéma quoi, de son propre cinéma, et c'est en ça que vraiment le film il est passionnant quoi. Après malheureusement en tant que spectateur on s'y retrouve pas, parce que je trouve qu'en termes de narration il est pas maîtrisé.
C'est le problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans le film en lui-même, tous ces éléments-là, notamment la roue et tout, il y a beaucoup de... nous, on n'est pas... Enfin, je veux dire, on les voit un peu plus facilement, peut-être les fusils de Tchekhov que le spectateur qui va au cinéma tous les 4 ans, tu vois. Mais j'ai trouvé que là, c'était vraiment le petit poussé de fusils de Tchekhov, quoi. C'est premier fusil de Tchekhov, deuxième fusil de Tchekhov. Donc, au moment où, normalement, il doit y avoir des révélations, tu sais qu'il y a des choses qui n'ont pas aidé des bunks, et donc, forcément, c'est relié à cet élément-là, ou cet élément-là, cet élément-là. C'était un peu, peut-être, ce côté-là aussi de prendre le spectateur dans le divertissement et dans le jeu qui peine un peu. Mais
trop subtil sur certains côtés et pas assez sur d'autres.
Peut-être. Johanna, toi qui as dit douille-douille.
Ça rejoint ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a
pas douille, pardon.
Pour moi, il y a un problème d'équilibre dans le film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symbolique qu'on ne capte pas forcément, mais en même temps, comme on disait, les fusils de Tchekhov sont très gros. Et problème d'équilibre aussi dans la structure, c'est-à-dire qu'il prend son temps au début. Ce qui est très cool parce qu'on a le temps de découvrir les personnages. Il prend vraiment son temps dessus sur toute la partie fête foraine. Et le rythme, il est cassé dans la seconde partie. La seconde partie, elle est construite de telle sorte qu'on ne comprend ni les enjeux des personnages individuellement, ni on n'a pas le temps d'avoir de l'empathie pour eux. Donc au fait, quel que soit ce qui leur arrive, j'ai trouvé que ce n'était pas très intéressant. Et il y a notamment un fusil de Tchekhov qui est tellement gros qu'on se doute de ce qui va advenir à la fin du film, et ça arrive quand même. Et du coup, le fait d'avoir des bains que ça avance, ça m'a un peu ennuyé au fait. Vraiment, toute la partie Cate Blanchett, j'ai trouvé ça très long, et j'ai trouvé que c'était la partie la moins intéressante et la plus longue. Je sais pas si c'est parce que je m'ennuyais que je trouvais ça long, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi prendre autant de temps sur ce développement alors qu'on aurait pu prendre du temps sur montrer son succès, quoi. Comme disait Clément, c'est qu'au final, il a du succès, mais on le sait que parce qu'on dit dans le film qu'il a du succès, mais on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il fait des numéros, il y a du monde dans la salle, mais en fait, on ne le voit pas dépenser son argent, on ne le voit pas profiter de la vie. En fait, ça va de scène en scène d'arnaque, où il en veut toujours plus en termes d'arnaque, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait avec cette thune et qu'est-ce que ça lui apporte, lui, personnellement ? À part le fait qu'on voit qu'il a de l'orgueil, qu'il a de l'ego, voilà, ça fait que tout l'enchaînement de ça a fait qu'à la fin, j'avais pas d'empathie pour lui. Et j'avoue que la scène finale m'a un peu laissé sur une note positive, mais j'avoue que le dernier.
Ça, je pense que c'est voulu.
Le dernier quart du film, je me suis bien fait chier.
C'est voulu qu'on s'en foute de lui à la fin, en fait, qu'on le prenne pour un connard. Parce
pour moi, il y a un côté fable, il y a un côté parabole un peu.
C'est, en fait. sur toute la fin, tout le dernier quart, j'étais un peu remonté, mais clairement je me disais bon attends, c'est un peu chiant vraiment là.
Manif dans le
là j'ai l'impression. Je me suis levé, j'ai jeté mes pop-corn à l'écran, après on m'a demandé de me rasseoir, j'ai dit non, après on m'a sorti.
C'est ça. Et en plus, comme dans le dernier quart il y a des moments de la BA qu'on n'avait pas encore vu, je savais que ça allait arriver. Et du coup, j'arrivais à recoller les morceaux par rapport à la BA.
Ça, c'est dur boulot.
Mais par contre,
voilà,
quoi.
C'est ça.
Par contre, c'est vrai que c'est la dernière scène où je me suis un peu calmé. Je me suis dit, en vrai, je veux bien avoir subi cette deuxième partie.
Pour en arriver là.
Un peu casse-couille parce qu'elle arrive de nulle part. Si c'est pour en arriver là, ok.
C'est même le dernier j'accepte. Plan, je dirais.
Ouais. Bah, le dernier plan,
ouais. Ouais, c'est ça, parce que bon, tu sais très bien scénaristiquement où ça va. Je veux dire, même si tu n'en es pas douté, je pense que sur les 5 dernières minutes, tu fais le lien avant même que ce soit annoncé. Mais c'est vrai que le dernier plan, il est vraiment. Vraiment ouf.
Bah c'est là où il aurait dû avoir une cassure. Où du coup c'est trop annoncé et du coup ça fait, c'est même pas un fusil de Tchekhov, c'est un sniper de Tchekhov.
Ouais, en fait, moi je pense que c'est pas un défaut le fait qu'on prévoit ça depuis le début, parce que je suis sûre que c'est assumé. Ils cherchent pas à te surprendre avec ça. Je vois plutôt un côté tragique et genre c'est annoncé. En fait, justement, il te l'annonce et je trouve que ça va pas mal avec le personnage du héros, parce que par rapport à ce que tu disais, Johanna, même sur sa richesse supposée. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit si riche que ça. De toute façon, j'ai l'impression que c'est même une sorte de faux riche tant que ses numéros marchent. Tu vois, il a l'air de vivre dans une chambre d'hôtel et tout, mais il n'y a pas une fortune, en fait, derrière. Et je trouve qu'on ressent beaucoup le fait qu'il pourrait tomber à tout moment et qu'il peut retomber, justement, dans la misère, mais du jour au lendemain.
Il y a quand
fait.
Même un gars qui lui dit « Je vous ai payé une fortune.
Mmh. » ouais, oui, mais en fait, il cherche à faire plus d'argent, mais
il dégomme tout le minibar de l'hôtel, hein, quand même. Je veux dire,
il est attiré par l'argent, mais en fait, je trouve intéressant le fait que ça soit un personnage assez tragique, parce que justement, il vient de rien, il n'avait plus rien, il essaye de se refaire, il est attiré par ça, par avoir toujours plus, mais on sent qu'il va tomber, et de toute façon, ça nous a été annoncé.
Ah oui, c'est annoncé dès le départ.
Tu vois, ça fait partie du genre même du film.
Il n'a pas vu venir le médium, quoi, donc c'est marrant.
Moi, après, c'est oui, mais c'est comment c'est mis en scène.
C'est ça, voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'on sache dès le début où ça va, mais en effet, dans la façon dont c'est raconté, au fait, je trouve que les films où on t'annonce dès le début ce qui va se passer, faut un sacré tour de force pour maintenir ton intérêt tout le long du film. Et je trouve qu'il y a une trop grosse partie où on perd l'intérêt.
Mais après, en y réfléchissant, je veux dire, La Forme de l'eau, c'était pas non plus un scénario de fou furieux, mais c'était juste que c'était ultra poétique, c'était un film qui faisait valser les émotions, qui en plus qui était, c'était un peu Abel et la Bête des temps modernes, quoi, qui rendait beaucoup hommage aux films noirs comme celui-là, avec des créatures lagon noir, là, je sais pas quoi, là. Enfin bon, bref, c'était, y avait aussi, tout ça était bien arrangé, bien agrémenté et tout, mais pourtant le scénario
non,
de La Forme de l'eau,
le scénario
c'est pas...
était quand même au-dessus, parce que les personnages étaient bien mieux écrits, tu vois. Ne serait-ce que tu penses à Richard Jenkins,
oui,
tu
si
penses à
pas,
le méchant.
Fou, quoi. Ou même Pacific Rim, c'est quand même des robots.
Attends, il
n'y
a pas besoin d'histoire
monstres.
Compliquée pour faire un très bon scénario, tu vois. C'est pas
que
ça.
C'est ce que justement je suis en train de dire. C'est que, mais c'est aussi dans le sens
juste
où
que l'intrigue
peux,
est simple.
C'est juste que tu peux avoir aussi un scénario simple, mais qui peut être vachement. Enfin, le film peut avoir une toute autre comment dire, ampleur par rapport à comment tu le filmes, par rapport à comment tu réfléchis tes décors, tes personnages.
Bah, disons que je trouve que d'habitude, il a plus un propos qui est clair. En fait, il fait un film, il sait de quoi il va parler. Que ça soit La Forme de l'eau, Les Chines du Diable ou tous les autres films qu'il a pu faire avant. Il avait un propos, il avait une intrigue qui avait un milieu, un début, une fin. Mmh. Il y allait, il savait. Là, j'ai l'impression qu'il a essayé de bourrer plein de trucs. Et c'est la première fois que je le vois faire ça, essayer de bourrer plein de trucs. Et du coup, il a mis trop de trucs sans vraiment savoir où il voulait aller, j'ai l'impression.
Ouais.
Et ce qui fait que voilà, c'est un peu bancal.
Mais ce qui est marrant, c'est que Crimson Peak n'avait pas trop été aimé. Ah. Et pour le coup, ça s'y non, mais ça rejoint.
Bien,
non, je ne vais pas à tout prix défendre Crimson Peak, mais je trouve que c'est intéressant parce que Crimson Peak est un autre exemple de scénario qu'il a fait où il y a un peu un effet twist et un effet qui veut aller plus loin qu'un truc assez simple comme La Forme de l'eau, un truc où il essayait de prendre des détours et de nous surprendre. Et finalement, il y a plein de gens qui n'ont pas adhéré à ça et qui ont trouvé même que ça se cassait la gueule, en fait, l'histoire. Sur ça, je ne suis pas d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'étais sortie de Crimson Peak à l'époque que j'avais vu au ciné, j'avais pas plus aimé que ça au départ, et c'est vraiment en le revoyant, c'est vraiment en lisant des trucs sur l'intention qu'il avait eu et ce qu'il avait voulu y mettre et en voyant le making of et tout que j'ai vraiment adoré ce film. Donc c'est pour ça que je continue de croire que peut-être celui-là c'est pareil avec les intentions derrière, mais encore une fois ça n'enlève pas le fait que effectivement ça ne passe pas le propos, il est pas clair de base.
Je trouve qu'il y a un manque d'émotion dû au jeu. Un peu d'acteurs. C'est que et Bradley Cooper et Kate Blanchett, ils font le taf, c'est des excellents acteurs, mais il n'y a pas un moment donné où je me suis dit waouh, enfin ça où ça m'a touché en fait, dans le mal ou dans la psychologie ou dans le sombre et tout. Je trouve que c'est quand même, c'est pour ça que je parlais d'un lissage, c'est que ouais, ça se regarde et tout, c'est mieux que 90% des films hollywoodiens qui ont ce budget là mais voilà, moi il m'a manqué un truc, il m'a manqué un moment,
quand
il m'a manqué
pas, il creuse pas, ouais.
Alors que au début en fait il cherche pas à creuser et ça marche beaucoup mieux. Parce que tu vois, il y a un truc qui m'a, dont je me rappelle, c'est le fait que Bradley Cooper met 5 minutes avant de parler. Tu vois. Oui. Enfin, 5 minutes, 15
ouais,
minutes.
Ouais, au moins 10 même. Hein.
Ouais. Ouais. Et ouais. Le, en fait, au moment où il parle, je suis déçu. Je fais, ah, c'est pour ça que tu parles. Enfin, symétrie... Moi, je m'attendais à ce qu'il étrange pour un truc. Pour...
Il y a une symétrie qui est marrante entre le début du film et la fin du film où, en fait, le mutisme de Bradley Cooper.
Ouais, et puis d'un coup, il se met à trop parler. Et puis tu es là, genre, waouh.
Hein. Arrête de parler.
Ouais.
T'es mentaliste ou marionnette.
Coupé Bradley.
Marionnette. Bah après moi je laisse le bénéfice du tout au film dans le sens où je l'ai vu il y a à peine 6 heures tu vois, donc bon faut que ça prenne aussi le temps de digérer et tout. Je pense que vous Johanna, Clément, c'est
bah,
pareil,
c'est très 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 récent,
vous l'avez
aussi,
vu là aujourd'hui ouais. Au moment où on enregistre
bah, ils sont en train de le regarder sur l'iPhone là.
Eh oh, ça triche.
Attends, attends, c'est la scène incroyable finale.
Après en tout cas ce qui est sûr, je pense que c'est reste pas une perte de temps de le voir.
Ah non non, c'est
voilà. non c'est pas mauvais,
c'est
film,
à voir,
c'est à voir. Et d'ailleurs on me dit dans l'oreillette que beaucoup de journalistes l'ont vu.
Ah bon,
ouais, et qu'ils ont pas mal écrit d'articles dessus aussi.
Mais alors,
par contre, ils vont nous dire s'ils ont perdu du temps ou pas. Voilà quoi. C'est la revue de presse de Kevin.
Revue de presse.
La 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 revue de presse. Comme son nom l'indique, on est parti piocher. Enfin, Kevin surtout est parti piocher. Les petits articles qui parlent de Nightmare Alley, où est-ce qu'ils se situent les gens? C'est du mitigé, c'est du bon, c'est du pas bon? C'est quoi cette cuvée Del Toro?
Alors, c'est globalement bien reçu quand même comme film. Sur Rotten Tomatoes, on est à 80%. Sur Metacritic, ils sont jamais contents, ils ont mis 69, c'est pas énorme. Et sur le ciné, on est à 3,8. Donc c'est quand même, c'est quand même des bonnes.
C'est carrément bien.
C'est quand même
il est moins
bonnes.
Bien noté que Spider-Man.
Oui, bah ça
vous fait, ça vous fait mal ou pas?
Ça, c'est un mystère insoluble.
Beaucoup de choses me font mal au cœur quand on compare les films d'aujourd'hui à Spider-Man. Spider-Merde.
Ça m'énerve. Bah, je vais commencer avec l'avis du journal du geek. Nightmare Alley allie les codes du fantastique.
Attends, le journal du crétin.
Oui, bah justement, j'ai pris exprès. Journal du geek avec un peu de whisky et de l'opium. Nightmare Alley allie les codes du fantastique à ceux du film noir pour mettre en scène la monstruosité avec un grand M, un freak show grinçant qui porte un regard cynique sur le genre humain et qui dresse le tableau d'une société des croyances, des thématiques très contemporaines qui permettent à la narration de s'offrir quelques élans de modernité.
Ça veut dire quoi ça, qui permettent à la narration de s'offrir des élans de modernité?
Ça j'ai pas compris l'histoire
par
de la
modernité.
Par rapport
au film d'avant qui date de 40 et quelques là
Ouais, peut-être parce qu'il y a plus de femmes un peu...
plus de couleurs, non, que, vu qu'il était en noir et blanc.
Pour l'anecdote, le film original de 47, je crois, un truc comme ça, est disponible sur YouTube.
Le charlatan.
Je pense de façon illégale, mais après, tu me diras, ça fait plus de 70 public. Ans. Donc,
peut-être que c'est...
Mais il est dans le domaine public, et du coup, il est sur YouTube. Je suis allé pointer un peu dans le film. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais par contre, les femmes n'ont pas une grosse position.
Tu m'as fait peur. J'ai eu très, très peur.
De quoi?
En même temps, elles n'ont pas non plus une grosse position de haut dans celui-là.
Dans celui-là non plus.
Dans celui-là non plus, elles n'ont pas une position.
Après, tu peux pas faire n'importe quoi avec l'œuvre d'origine.
Tu sens qu'il a essayé de faire un petit truc qui a un peu des girl power, tu vois, et c'est très mal fait.
Et genre, il en a mis trois alors qu'on a qu'une dans le.
Waouh. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais.
Bien joué.
J'ai pas tout compris. Ok, d'accord. What's next?
Closer. Exclusif. Bradley Cooper trompe Rooney Mara avec Kate Blanchett sur l'impulsion de Guillermo del Toro.
On va lancer une nouvelle rubrique mytho ou pas mytho.
C'était pour Closer. Écran large.
Joaquin Phoenix en rage.
Lady Gaga intervient. Écran large. En refusant le surnaturel pour se consacrer au noir, le réalisateur de L'Échine du Diable aurait-il abandonné ses monstres chéris? Le premier acte répond par la négative à cette question. Del Toro est persuadé que le noir et l'horreur partagent les mêmes zones d'ombre, parfois décrit comme un rebondissement ou pire une parenthèse anecdotique dans sa filmographie. Nightmare Alley s'y insère en fait très bien lorsqu'il mêle des entrelaces puis réunit ces deux références.
Quel lyrisme. Critique
quel lyrisme. Bien sûr, convenu. Mais
en fait,
enjaillé.
Je sais pas, c'est pas une critique engagée, ça.
Ouais, c'est un peu normand. Ouais. Ça mêle des entrelaces puis réunit.
Il y a pas grand monde.
Peut-être bien, c'est bien, puis peut-être bien non.
Beaucoup de mots contre triple, mais pas d'engagement.
C'est vrai que après, les gens se mouillent pas trop non plus. C'est très libé.
Clairement, la forme de l'eau.
C'est la forme de l'eau.
J'en peux plus. C'est que le début.
Libé. Au fond, au fond. Nightmare Alley révèle peut-être ce qu'on avait toujours rêvé de voir Del Toro faire, avec la vitalité créatrice qui est la sienne, pour atteindre l'osmose entre la grosse machinerie et le fétichisme formel, au-delà du standard Disney pour adultes. C'est vrai qu'il a beaucoup été accusé de faire du Disney pour adultes Del Toro pendant longtemps.
Avec quoi ?
Avec Labyrinthe de Pan, avec...
C'est beaucoup plus glauque que Labyrinthe
de Pan. Alice au Pays des Merveilles, tu veux dire, c'est ça la comparaison avec Disney ? Je comprends pas, en fait.
Ben, mais parce que...
C'est pas lui qui l'a dit.
Parce que c'est pas moi qui le dis. Hein.
Ah, je sais, mais bon, c'est toi qui rapporte.
Kevin répond pour tout le monde, ok ?
Il m'accuse. C'est ça, le médiateur.
Parce qu'il faisait des contes de fées qui étaient des contes noirs et que le conte de fées était traditionnellement rattaché à Disney.
Hellboy, c'est Pinocchio pour les adultes.
Oh!
C'est pas son équipe, non, mais attends, c'est les cornes. Si,
hein. Pinocchio, d'ailleurs, si vous avez pas vu.
Et le Boy 2, chef d'œuvre, hein, j'ai pas honte de le dire.
Décembre 2022, le Pinocchio de Del Toro. Très, très bien, en film d'animation.
C'est vrai.
Ouais.
Ça sera Netflix, mieux. Netflix.
Netflix, du coup, bien. Pour petit canapé.
Le N.
Petite bière. Au calme, quoi.
Au KLM.
Voilà. Donc,
toi, tu regardes Pinocchio avec une bière.
Non, avec mon petit canif et un petit bout de bois. Clac, je fais des pieux pour les vampires de Blade. Tout se rejoint.
Tout est lié. Allez, j'enchaîne avec première. Passer des quiz des chapiteaux poussiéreux au beau milieu des grands hôtels et des salons chics des hyper riches, le diseur de Bonne Aventure se fait agent de mauvais augure. L'échec fracassant du film au box-office US, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le film se plante, ouais, totalement.
Ah,
on est la conséquence directe et la suprême ironie. Confronté à l'écran miroir, il est sans doute plus facile pour le grand public d'aller se promener de l'autre côté que de faire face à la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vertigineux. Dans Nightmare Alley, on la retrouve telle que l'a toujours révélé le film noir, un gouffre sans fond, un tunnel sans issue et sans la moindre lumière au bout. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est peut-être le film le plus noir qu'il ait fait, je trouve.
Ouais, par contre, c'est vrai que ça me fait penser à des scènes, bon, sans spoiler, mais il y a des scènes morale, hein, de conséquences de ce que fait cet arnaqueur, ouais, qui sont hyper violentes aussi,
c'est
vrai. Hyper dures.
Le karma. Ouais.
Avec le Labyrinthe de Pan qui a une fin très noire aussi, mais...
T'as Claude Lelouch devant Nightmare Alley. What the fuck.
Ouais, non, mais Nightmare Alley fait de.
Là, je regarde le box-office du coup sur internet.
Ne marche pas. Il
box-office.
Ne fonctionne point. Les gens ne vont pas le voir.
Et Martin Scorsese veut que vous alliez voir Nightmare Alley.
Oui,
et que
j'ai
vous
vu
brûliez
passer
Spider-Man.
Ça.
Mais enfin, non, c'est moi qui ai ajouté brûler Spider-Man.
J'ai fait les deux.
Martin Scorsese a souvent raison.
C'est vrai. Je disais, Martin Scorsese ne pratique pas le BMC. Enfin.
le BMC, ça c'est.
BMC.
Qu'est-ce que ça veut dire, BMC ?
Je sais pas, faudra demander à William.
Bon, qui a pas aimé dans la presse là ? Allez,
les cahiers du
des
cinéma.
Trucs un peu brûlants, là.
Qu'est-ce qu'ils
les
ont
cahiers du cinéma, ils ont pas aimé.
Enfin, aimé dans le monde.
Non, mais il y a personne qui a vraiment pas aimé. Tu vois, c'est les cahiers du cinéma. Ils ont dit que le cinéma était mort. Enfin, c'est Godard qui a écrit l'article. Les cahiers du cinéma. Le film semble alors faire le commentaire de son propre excès. L'escroquerie doit être de plus en plus grande et lourde de conséquences. Le risque pour le magicien comme le cinéaste est de devenir à son tour un pantin de l'industrie qu'il voulait conquérir. C'est pas gentil.
Oui. Non, c'est pas très gentil.
C'est pas gentil.
Ouais.
Mais ils ont jamais été vraiment très gentils.
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est gentil pas... dans leur manière de.
Ils devraient aller
de
voir
pas être gentils,
Blanchette.
Mais ils le disent avec des formules en poulet.
Ils sont passifs agressifs.
Ouais. Ils ont été beaucoup plus agressifs que ça.
Ouais. Des formules en poulet, mais ça reste pas des lumières, si tu me permets ce bon mot.
Je leur mets un 5 sur 10 sur la critique.
critique de critique.
Allez, j'enchaîne avec la croix. Jésus désapprouve ce film, c'est faux. Mais après, ils ont fait une vraie critique que je lis. Malgré sa sincère dimension personnelle, cette fable âpre sur le poids des déterminismes sociaux est alourdie par un dénouement inutilement long et grandiloquent qui aurait mérité un coup de baguette magique au montage.
Alors ça, je suis totalement d'accord. Mais on en parlera en micro parce que ça spoil.
Est-ce le montage ? C'est ça ? Moi, je trouve.
Est-ce l'écriture ?
Non, en fait...
Bon, moi, le film doit finir avant, donc je suis d'accord sur le montage.
Après, il faut quand même que je dise une chose, c'est que j'avais énormément... peur entre guillemets d'aller voir ce film parce que 2h20 je me suis dit
on est d'accord.
En vrai j'adore Guillermo del Toro, mais c'était juste 2h20, là j'avais des choses à faire et tout, j'étais en mode bon, mais au final je les ai pas tant vu passer que ça à part sur la deuxième partie du film, en vrai, hein. Donc c'était plus
Moi, au milieu de la deuxième partie du film je me suis dit mais ça fait 4h que je suis là, en plus pour une fois j'étais pas à Châtelet, donc du coup j'étais dans un cinéma silencieux, donc du coup putain, le temps est passé à une
fermer leur gueule,
d'une lenteur, mais alors que d'habitude, tu sais, il y a un peu des trucs qui
un peu d'animation,
des événements
qui me divertissent, quoi.
Oui, il y a des petits happenings.
Voilà, c'est ça.
Je trouve que ça va. Tu ressens moins les 2h30 que devant Spider-Man, qui est une souffrance absolue.
C'est absolument, je suis absolument d'accord. Spider-Man prend cher.
Nous n'avons pas aimé ce film.
Sixième au box-office.
Nous avons détesté ce film.
Allez, je conclue avec l'Obs. C'est plus le Nouvel Observateur, maintenant c'est l'Obs, c'est fini.
Ça fait longtemps.
Je sais.
Ça fait longtemps qu'il est nouveau, du coup maintenant c'est.
Maintenant il est plus nouveau. Ouais. Voilà. Le réalisateur du Labyrinthe de Pan raconte une Amérique malade de ses pairs, du mensonge et de la cupidité avec une foi dans le genre qui fait plaisir à voir. C'est ambitieux, léché, trop. Tant les enjeux ont du mal à maintenir la tension et les aspérités à percer la surface de ce long film dont le style ripolliné flirte avec le pastiche. Ripolliné ?
Ouais.
Avec le pastiche.
Ripollin, c'est la peinture, non ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
L'excès de vernis ou de la peinture.
Allez, je regarde.
Ripollin, c'est une marque de...
L'excès de joliesse menaçait déjà la forme de l'eau, qui avait pour prétexte d'être un conte. Avec Nightmare Alley, Del Toro creuse son projet hollywoodien d'anoblir la matière pulp, de rendre oscarisable la série B, au risque d'en éventer le goût.
Eh bien, je suis d'accord.
J'ai une question. C'est possible d'écrire une critique avec des sujets-verbes compléments
Les journalistes cinéma sont des intellectuels.
Non, mais c'est.
D'ailleurs, ripolliné, on en apprend tous les jours. Hein. Ripolliné vient du verbe ripolliner, tout simplement. Qui veut dire donner à quelque chose l'apparence souvent trompeuse du neuf. Exemple, une chaîne de télé qui ripolline son image.
Oh.
Ah, comme TF1. Comme CNews.
Comme pratiquement.
Non, c'est news, non, elle a suranisé.
Dérépollinisé.
Elle a suranisé, okay, l'effet inverse.
Voilà, ripolliné. Tu savais pas ça, Clémence, hein,
non.
Ça... Et ben, toc.
Tu ne sais pas le mot ripolliné, hein.
On en apprend tous les jours.
Yes.
Bah, et ben voilà pour
tout. Et ben on réutilisera voilà, pas ce mot.
Et ben j'étais plus d'accord avec la deuxième partie des critiques pour le coup. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui. J'ai compris ce que tu voulais dire.
Oui, plus ambi. Enfin.
Mais t'avais plus aimé la première partie du film.
Du coup, ça se complète. Du coup, le film est un chef-d'œuvre.
C'est un génie. Bravo.
Il n'y a plus de logique dans ce podcast. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, sur ces belles critiques, merci Kevin. Je pense qu'il est déjà temps pour nous de nous dire au revoir.
Oh non. Au revoir.
Is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process.
Voilà. C'était le match retour de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. On le dira jamais assez, mais faites-vous vous-même votre propre avis. Hein. Nous ne sommes pas des sciences pour les avis, comme vous avez pu le remarquer. Il peut y avoir boire et à manger.
Pour les avis.
D'ailleurs, à boire et à manger, moi j'ai faim, j'ai soif.
Allez.
J'ai envie d'aller au bistrot du coin, j'ai envie de me faire plaisir.
On se fait une tablée ?
On va se faire une tablée, là, on va parler de la BA.
Une planche de fromage ?
Pour raconter un peu les coulisses de Feta BA. Voilà, c'est que nous, on enregistre le match retour et ensuite on passe sur la BA de la semaine qui sera Adieu Paris.
Adieu Paris.
De Robert.
D'Edouard
Baird. Et donc, ça donne très fin, une BA qui est en très fin et qui va nous donner, du coup, l'occasion de partager un festin autour des micros.
De manger de la mousse de canard.
Et on vous donnera, voilà, on match retournera tout ça. Autour des micros, nous, dès la semaine prochaine pour le prochain match retour. Et ben c'était cool, Nightmare Alley, enfin de discuter de Nightmare Alley avec vous.
Faites-vous votre avis. Hein.
Allez le voir.
Ça reste très beau.
Puis ça fera plaisir à Guillermo, ça toujours plaisir de lui faire plaisir.
Hein. On peut dire qu'il y a à boire et à manger.
Oui, super compris.
Comme dans la prochaine
BA. Oui. Et regardez le tab sur Bradley Cooper, il est très intéressant.
Ouais, sur Tales from the Crypt, ouais, très cool. Très cool, j'ai appris plein de trucs. Bah écoutez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous voulez écouter d'autres matchs retours ou d'autres épisodes BA qui sont juste à côté, toujours, et ben c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Des bisous, à bientôt.
Bisous.
Allez,
bisous.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bye.
Arrivederci. 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 Arrivederci.